Vous êtes sur RTL.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL. Jérôme Florin.
Il n'y a pas de saison pour se laisser tenter. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Allez musique, maestro Steven Bellery, on plonge dans un nouvel album en or aujourd'hui. Isabelle Boulay s'est confiée à vous, elle a beaucoup de choses à dire.
Immense succès en septembre 2000, les Français tombent en amour pour la voix d'Isabelle Boulay. Cette flamboyante rousse québécoise publie « Mieux qu'ici-bas ». Certains avaient déjà entendu son extraordinaire voix sur scène dans une version de Starmania. L'album séduira plus d'un million d'acheteurs chez nous.
Cet album-là, ça a été la première fois que j'ai collaboré avec Benjamin Biolay. C'est un album sur lequel on fondait beaucoup d'espoir. Ça a été un album qui s'est fait dans une période charnière de ma vie, je dirais.
Je t'entends.
Je me souviens que je sentais à l'intérieur de moi que cet album-là allait quelque part changer ma trajectoire. Ça a été le disque de ma vraie rencontre avec le public français. La première fois que j'ai rencontré Benjamin, on était très intimidés l'un par l'autre. En fait, il avait des lunettes noires qu'il gardait toujours. Puis à un moment donné, je dis « Est-ce que ça vous gênerait d'enlever vos lunettes? » Il était confus, il disait « Oh, mais je m'excuse. » Mais je me rappelle de ce moment-là où j'ai vu son regard pour la première fois. Je suis un cheval sauvage. Benjamin, je mets ma main dans la sienne, je ferme les yeux et je sais que je vais faire un beau voyage. C'est quelqu'un qui aurait pu être mon grand frère.
Juste quelques pleurs, comme on arrose une fleur de quelques pleurs.
À cette époque-là, c'était l'époque des chanteuses à voix et moi, j'ai jamais pensé de moi-même que j'étais une chanteuse à voix, mais je me disais, bon, ben, ça me flattait de faire partie de cette famille-là. Je me considère plus comme une chanteuse réaliste, comme une diseuse, en fait. Je connaissais pas encore tellement ma voix, mais cette fois-là, c'est aller plus loin que mon instinct, en fait. C'est que ça m'a demandé plus d'efforts.
Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots.
Le titre Parle-moi, il est né comment?
Je m'en souviens très bien, j'étais dans un petit hôtel qui s'appelle l'Hôtel Cecilia à Paris et j'entends cette chanson-là qui est une chanson de Robert Goldman. C'était pas évident pour moi au départ, en fait. J'ai mis du temps à l'apprivoiser et c'est devenu une des chansons des plus importantes dans ma carrière.
Patrick Bruel qui vous avait écrit un jour ou l'autre.
La première fois qu'on s'est parlé, c'était sur le toit du drugstore Publicis où j'étais avec le père de Céline Dion et on était en train de parler et tout. Et puis il s'est approché de nous et c'est là où je lui ai fait une déclaration en lui disant « Écoutez, j'aime beaucoup vos chansons, mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que vous fassiez des chansons pour moi. » Ça a fait du chemin dans sa tête et puis il me présente cette chanson-là. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup ému. C'est une chanson très, très belle. Ce disque-là était vraiment bien dans son époque. Ouais, il a changé ma vie. Il n'est pas lié qu'à de bons souvenirs, malheureusement. Le succès et les affres du succès aussi.
Un jour ou l'autre, on se retrouvera comme un matin d'enfance.
Et
elle ne se considère pas comme une chanteuse à voix.
C'est ça qui est fou. Isabelle Boulay a sorti un joli disque de chansons de Noël l'hiver dernier. Et Biolay a réalisé quasiment tous ses albums par la suite.
C'est un bonheur. Merci beaucoup, Stephen Bellery, de se replonger dans cet album-là. On passe à la bibliothèque avec vous, Bernard Lehu.
Allez, je vous emmène.
Allez, et parmi vos coups de cœur de l'année figure La femme révélée. C'est un roman signé de Gaëlle Nohan.
Histoire puissante, écriture irréprochable, héroïne inoubliable, bien tout ce qu'on aime. De livre en livre, Gaëlle Nohan s'affirme comme l'une de nos meilleures romancières, capable d'aborder des thèmes universels à travers des personnages, des destins singuliers, et toujours sur un fond passionnant de grande histoire qui en plus, cette fois-ci, fait écho à l'actualité la plus récente.
Et qui est la femme révélée que Gaëlle Nohan nous invite à découvrir?
Une américaine, Eliza Donnelly, mariée, mère d'un petit garçon. Nous sommes au début des années 50 à Chicago, où les Noirs subissent une effroyable ségrégation raciale qui scandalise cette jeune femme de la bourgeoisie blanche et progressiste. Au début du livre, on la découvre pourtant à Paris, dans un hôtel miteux, quasiment sans le sou, seule et sous un nom d'emprunt, Violette Lee. Alors que s'est-il passé au point de lui faire fuir précipitamment l'Amérique et d'abandonner son fils? Vous le découvrirez. Ce qui est sûr, c'est que ce thème de l'abandon est à l'origine du roman de Gaëlle Nohan.
Moi, j'ai une petite fille et j'envisage pas une seconde de me séparer d'elle où que j'aille. Je crois que je la prendrai en bandoulière. Mais là, je voulais vraiment aborder ce sujet-là qui est du déchirement d'une femme qui est obligée de quitter son ou ses enfants. Donc, j'ai imaginé vraiment que cette femme était absolument déchirée. Voilà. Et bon, c'est une double déchirure puisque c'est la déchirure de l'exil et de cet exil du cœur par rapport à son fils.
À Paris, Eliza, alias Violette, donne libre cours à sa passion, la photographie, et découvre l'effervescence de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi le monde des marginaux. Elle apprend une indépendance nouvelle, la liberté, elle croisera l'amour, mais reste la douleur, bien sûr, de ce fils laissé de l'autre côté de l'Atlantique, toute sa vie étendue vers l'espoir de le rejoindre.
Mais alors vont-ils se retrouver, Bernard ?
Ah, mais oui, allez, nous sommes en 1968, autre temps, autre pays, autre ambiance. Les Noirs luttent pour leurs droits, les étudiants protestent contre la guerre du Vietnam, Martin Luther King et Bob Kennedy viennent d'être assassinés, Chicago, où donc Violette débarque, est une ville en ébullition, et Eliza va tenter, alias Violette, de renouer avec ce fils devenu un adulte engagé dans les luttes politiques de l'époque, et dans un final intense, éblouissant, Eliza, la femme si longtemps déchirée, parviendra enfin au terme du long chemin qui aura fait d'elle une femme révélée.
C'est quelqu'un que la vie fait sortir d'elle-même, dont la vie va tirer des choses, y compris du courage. Le courage, je ne sais pas si elle l'a au départ. Ce n'est pas une guerrière au début de sa vie. Et puis, en fait, dès l'instant où elle est obligée de changer d'itinéraire, de faire un virage à 180, hop, elle est obligée d'être dans un inconfort et dans un risque, dans un danger qui la révèle. Je crois que ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie et dans ce risque, qu'on a tous tendance à fuir, en fait, on a vraiment envie d'être tout le temps dans la sécurité, mais c'est pas dans la sécurité de la vie qu'on peut devenir quelqu'un d'intéressant.
La femme révélée, magnifique roman de Gaëlle Nohan, et c'est édité chez Grasset.
Quel petit vénard vous êtes, vous. Passez votre temps à lire des livres, à rencontrer des écrivains. Mon Dieu, quelle belle vie. Anthony Martin,
je ne me plains pas.
Votre pépite musicale, Anthony.
Alors, cap au sud, avec la toute première version de la chanson Le Sud, de Nino Ferrer, car au départ, ce n'était pas une chanson en français, et c'était un duo. Nous sommes en 1973, Nino Ferrer passe l'été dans son imposante demeure d'apparence coloniale, à Rueil-Malmaison, près de Paris. À ses côtés, une amie américaine, la mannequin Radia Fry, qui n'est autre que la maman de la chorégraphe Mia Fry, et Nino Ferrer, qui travaille sur un album en anglais et en duo avec son ami, écrit une chanson inspirée par ce qu'il voit depuis sa terrasse. Le texte est donc en anglais et il s'appelle South. En fin d'année, Nino et sa muse Radia partent à Londres dans les studios Trident pour enregistrer en duo ce titre South qui ouvre leur album Nino and Radia, paru en 1974. C'est notre pépite du jour. Voici ce titre qui, seulement un an plus tard, sera traduit et interprété en solo pour devenir le Sud. So many children so many dogs. There is a gap and a turtle and a long whale, but not a frog. We call it the sound. Voilà pour Nino Ferrer, c'était ça, le Sud, un duo en anglais avec son ami Radia Fry. La pochette de leur album ferait du bruit. Hein. Aujourd'hui, Radia pose nu, debout, à côté de Nino Ferrer qui lui est habillé. La photo est sublime. L'album en duo n'a pas marché et la maison de disques qui avait repéré le potentiel de cette chanson avait dans le contrat, malin, demandé à Nino Ferrer d'en proposer une version solo en français. Il a donc dû le faire, ce qu'il a détesté. Il a claqué la porte du studio lors de l'enregistrement et pourtant on connaît la suite. Hein. Le Sud se vendra à plus d'un million d'exemplaires en 1975 et en sera au panthéon de la chanson. Ce sera d'ailleurs le dernier grand succès de ce mélancolique inconsolable qu'était Nino Ferrer.
Et alors ceux qui écoutent le Sud en disant il a composé ça face à la mer et tout, bah non,
non, à
il a composé
maison.
Ça à Rueil-Malmaison.
Dans les Hauts-de-Seine.
Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe, on vous retrouve demain et maintenant notre soirée télé, enfin dans un instant avec vous Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors menu du ciné, des docs et de la cuisine.
Oui, ce que nous pourrions résumer par des gaffes bévues et boulettes, du gras mais pas là où il fallait, des lettres d'amoureuse et une blague, signé Ronald Reagan pour égayer votre soirée télé.
A tout de suite.
C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Jérôme Florin.
À la télé ce soir, donc avec vous, Laurent Marsic, comme promis, d'abord du cinéma.
Exactement. TF1 dégaine Gaston Lagaffe, inédit à la télévision. C'est à réserver vraiment aux plus jeunes. Les plus grands, les parents n'y retrouveront pas l'univers habituel de la bande dessinée, c'est-à-dire les éditions Dupuis où Gaston travaille. Enfin, travailler est un bien grand mot. Changement d'époque, donc, dans cette adaptation signée Pierre-François Martin Laval. Gaston est stagiaire dans une boîte type Le Bon Coin. Et Gaston, ça reste, fait du Gaston Lagaffe. En piste, Théo Fernandez, c'est lui qui incarne Gaston Lagaffe, face à Pierre-François Martin Laval, alias Prunel.
Qui vous a recruté ?
Je sais pas, on m'a dit de venir.
Et on voulait t'en parler.
Mais venir pour faire quoi ?
Voilà, il fait du Gaston Lagaffe, TF1, 21h.
Un voyage, ou plutôt des voyages à présent.
Sur France 5, avec des trains pas comme les autres, qui continuent cet été d'explorer ses archives et qui proposent ce soir une nouvelle galerie de portraits. Rencontre insolite pour Philippe Googler, des Suisses par exemple, qui se promènent presque à poil en hiver dans la montagne, affirmant que c'est bon pour leur deuxième et troisième peau. Ou encore, là j'avoue Géry, à Vérone, où des millions de touristes viennent vénérer Roméo et Juliette, pourtant personnages fictifs de la pièce de Shakespeare. Il y a même une boîte aux lettres, où on peut déposer des lettres à Juliette et une armée de Juliette répondent à chaque lettre.
Je me rappelle d'une jeune femme française qui voulait séduire un camarade. Elle l'a ramené chez elle et pour détendre l'atmosphère, elle l'a fait boire énormément de vin. Elle raconta à Juliette qu'il ne s'était rien passé, parce que le pauvre a passé le reste de la nuit sur le balcon à vomir. Et après, son zizi n'était plus opérationnel.
Et alors là, qu'est-ce que vous avez donné comme conseil alors ?
On lui répondit que boire trop, ce n'est pas bon pour la santé, ni pour l'amour d'ailleurs.
C'est QFD, comme dirait le docteur Michel Simès. Des trains pas comme les autres. France 5, 21h.
Allez, et puis un retour inattendu, celui de Cauchemar en cuisine sur M6.
Oui, suite à la déprogrammation de la série Les Copains d'abord, que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Sisplay, M6 rediffuse...
Vous n'en débordez pas,
non,
vous l'aimez bien ça.
M6 rediffuse donc le meilleur de Cauchemar en cuisine avec le chef Philippe Etchebest qui vole au secours de restaurateurs en perdition. Perdition comme ici, à Montpellier, où le chef tombe en émoi devant une friteuse.
Putain, mais Adèle... Non, vous avez fait quoi, la friteuse ? Parce que je n'ai jamais vu des friteuses dans un état pareil.
C'est de l'huile qui a collé dessus.
C'est l'huile qui a collé dessus. C'est du jamais vu. La couche de gras, il y en a tellement que c'est figé, c'est incrusté.
Et bon appétit bien sûr, M6, 21h. Et puisqu'on est dans les rediffusions, allez donc faire un tour sur le replay d'Arte qui a diffusé il y a quelques jours un formidable documentaire sur les voitures au temps du socialisme dans les pays de l'Est. Elle s'appelait Trabant, Moscovitch, Zaporojet en Russie. La voiture, symbole de liberté, symbole de puissance industrielle. Sauf que contrairement aux publicités de l'époque, il fallait payer avec 10 ans d'avance et attendre 10 ans pour avoir une voiture. Écoutez ce bout de discours surréaliste, c'est Ronald Reagan, alors président des États-Unis, qui commente une pub russe sur la voiture pour tous.
Dans cette histoire qu'il raconte, l'homme réunit enfin la somme. Il effectue toutes les démarches, il signe les papiers demandés et le guichetier dit « Venez chercher la voiture dans 10 ans ». L'homme demande « Le matin ou l'après-midi ?» Le guichetier répond « Dans 10 ans, qu'est-ce que ça changera ?» Ben, le plombier doit passer le matin.
Une blague, ouais. Tout simplement. Arte.tv.
Merci beaucoup, Laurent. Passionnant, comme chaque jour. On vous retrouve demain, à la même heure, avec d'autres aventures.
À demain.
Ça danse, là, c'est sympa. Hein.
Le groupe s'appelle les Leningrad Cowboys.
C'est vrai?
Ouais.
Allez, merci à tous pour votre fidélité. RTL, il est 9h.